Ok, donc aujourd'hui on va démarrer avec le. On a aujourd'hui le résumé des trois chapitres, 41, 42, 43. On a parlé principalement dans ces trois chapitres, de la crainte et de l'amour, et autour de ça, donc la crainte et de l'amour de Dieu, et autour de ça on a parlé de beaucoup de choses. Donc je vais démarrer par la page, d'accord, intitulée 41, la crainte avant tout, ou le sens des priorités. Voilà, c'est la page 41. Donc. Le titre, c'était « La crainte avant tout », pour expliquer que dans le judaïsme, la crainte passait avant l'amour, dans le sens normal des choses. Quand ? Et on a appelé ça le sens des priorités. Donc on va développer ça tout de suite. Donc je passe en dessous. La crainte perso. La crainte perso, parce qu'après on parlera d'une crainte collective. Quand ? La crainte perso, ça veut dire travailler personnellement dans un but personnel. Donc on a posé la question tout d'abord au début du chapitre 41. On a posé la question, on a dit, tout d'abord, pourquoi ne pas démarrer par l'amour? Pourquoi tu me dis qu'on est obligé de démarrer par... On n'a pas encore expliqué comment on travaille la crainte de Dieu, on va expliquer après. Et avant même de commencer, il pose la question, il dit, mais pourquoi on ne démarre pas par l'amour? Pourquoi on ne fait pas tout par amour? Pourquoi commencer par la crainte? Alors on a expliqué qu'il y avait trois problèmes éventuels quand on était proche de quelqu'un, en fait, ces trois problèmes qu'on peut appliquer aussi dans la vie de tous les jours, d'accord? Dans ces relations, quand on s'attache à quelqu'un que par amour. Premier problème, c'est pour éviter le syndrome du flirt passager. Vous savez, le flirt, d'accord, c'est très rapide. Ça veut dire que des fois, on peut croire qu'on aime quelqu'un, mais en vérité, on l'aime pas. Donc, si on démarre que avec l'amour, je dis moi, il n'y a que l'amour, il n'y a pas de crainte. Le problème, c'est que comme ça tourne autour de moi, donc c'est possible que ça va durer que quelques heures, quelques minutes, quelques jours, quelques années, mais qu'après, ça passe et c'est fini. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut que ça tienne, ça bouge pas. Premièrement. Deuxièmement, quand on aime sans craindre, on néglige les détails. On peut voir ça dans la vie de tous les jours, avec sa femme, ses enfants par exemple, que si on ne développe pas un petit peu de crainte, quand par exemple on te demande de faire quelque chose, et t'as oublié de faire un détail dans une course, etc., tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai oublié un petit détail. Alors que quand on démarre avec la crainte, on accorde l'importance à chaque détail, parce qu'on sait que tu manques un détail, tu vas prendre sur la tête. Ça c'est la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas démarrer par l'amour. Troisième raison, qui est la plus importante, c'est que sans crainte, l'amour est égoïste, on aime l'autre par pur plaisir. C'est-à-dire, on a expliqué qu'en vérité, aimer quelqu'un, c'est pas forcément que je l'aime, c'est pas forcément que le focus est sur lui. Des fois, aimer quelqu'un, c'est un plaisir. Il y a des gens qui kiffent aimer. La preuve, on a expliqué, c'est qu'il y a des gens qui sont capables, qui vont vous dire j'aime quelqu'un, j'aime une autre femme par exemple, d'accord, Chassé Shalom, et qu'en vérité, ils vont lui faire du mal. Ils disent qu'il aime, mais il aime pas, et puis il s'aime à soi-même, il aime son propre plaisir. Donc de là, on a prouvé qu'il faut bien faire la différence quand on dit aimer quelqu'un. Très souvent, on n'aime pas l'autre personne, mais on s'aime à soi-même. Et c'est seulement quand on va aimer l'autre personne, c'est une forme de plaisir personnel, de kiff personnel. Donc pour éviter ces trois syndromes, ces trois problèmes, on a dit qu'il ne faut pas démarrer par l'amour, il faut démarrer par la crainte. Démarrer par la crainte, comment on va développer tout de suite comment et pourquoi. C'est seulement après, quand on a mis les bases, la crainte c'est la base, seulement une fois qu'on a la base, c'est là qu'on peut attaquer l'amour. Alors, on a expliqué un deuxième point avant d'expliquer qu'est-ce que c'est la crainte. Vous me suivez, vous êtes avec moi? On a expliqué le concept du Naase Benishma. On a dit qu'on a fait un grand scoop quand le peuple juif sont sortis, quand le peuple juif ont reçu la Torah, on dit, ils ont dit Naase Benishma, on fera puis on comprendra. On a dit, mais question, on a dit, mais c'est normal. Tout apprentissage nécessite une soumission préalable. Comme si j'ai un contrôle à faire, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Bien sûr que je dois me taire, je dois écouter ce qu'on a à me raconter. Alors c'est sûr que le peuple juif on dit on fera puis on comprendra. Pourquoi tu veux comprendre avant de faire? Tu veux comprendre. C'est pas normal. C'est sûr que d'abord il faut commencer à faire et après avec le temps tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spectaculaire dans le fait que le peuple juif on dit Naase Benishma? Et là on avait expliqué quelque chose de très fort. Rappelez, c'était le cours du Rav Yoel Kahn qu'on avait résumé. On a dit que réponse R, donc le peuple juif a accepté de devenir les esclaves de Dieu sans chercher aucun but. On a dit comme ça, qu'en vérité tout est dans le but. Si par exemple, j'ai envie de passer mon permis de conduire, et qu'on me dit, monsieur, vous allez passer votre permis de conduire, maintenant, il faut vous taire, il faut écouter ce qu'on vous dit. Après, vous comprendrez. Moi, mon but, c'est de comprendre. Moi, je dis, il faut bien que je me taise au début, donc je me tais. Mais dans ma tête, chaque fois que je me tais, je me dis, bon, je comprends pas maintenant, mais après, je vais comprendre. Je finirai par comprendre. La Torah, c'est le contraire. Le but, c'est de ne pas comprendre. Le but, c'est de faire parce qu'il faut faire, comme un esclave. Seulement, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner un coup de main, et de temps en temps, de nous montrer un petit peu les raisons, comme ça, ça nous aide. Mais notre but n'est pas de comprendre. Notre but est de faire. Ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve que dans le judaïsme. On retrouve ce point-là, comme enfin c'est le Rav Senzel qui dit, moi j'ai pas exploré les autres religions, mais il dit qu'on le retrouve dans aucune autre religion. Dans toutes les autres religions, la soumission personnelle est toujours pour atteindre un but. Le judaïsme est la seule religion dans laquelle on ne s'annule...
La soumission est le but.
La soumission est le but, exactement, Razak. On ne s'annule pas pour atteindre un autre but, mais on s'annule pour...
S'annuler.
Bon. Alors tout ça, c'était qu'une introduction pour expliquer que le plus important, c'est la crainte, donc la soumission, la crainte, il faut démarrer par la crainte. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la crainte. C'est quoi la crainte ?
Donc,
alors, on a expliqué justement la crainte. Donc, on a parlé tout d'abord de la crainte basique et générale. Crainte basique, qui concerne tout le monde, les enfants, tout le monde. D'accord ? C'est quoi la crainte basique et générale ? Ne pas se révolter contre Dieu. Alors, comment on développe cette crainte ? Alors, travailler souvent son imagination sur les points suivants. Trois points. Les trois points du début du chapitre 41. Premièrement, réfléchir, donc son imagination, réfléchir, s'imaginer comment Dieu est grand et illimité. Donc essayez d'utiliser votre cerveau, votre imagination, avec ce que vous connaissez. Essayez de vous imaginer Dieu. Donc un enfant, il va s'imaginer qu'aux yeux, il est dans le ciel. Et un adulte, plus on est grand, plus on va s'imaginer des choses. D'accord ? Essayez d'imaginer comment Dieu est grand, l'enjeu, comment Dieu est très très grand, comment Dieu gère tout le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut s'imaginer, comment Dieu délaisse entre guillemets, toutes ces créatures, pour mettre son focus sur moi. Puisque, on l'a dit dans la Mishnah Sanhedrin, le monde a été créé pour moi individuellement.
Le monde a été créé D'accord pour chaque personne individuellement.
Chaque personne individuellement. C'est écrit comme ça. Donc, premier point, je réalise comment Dieu est très grand. Deuxième point, je réalise comment ce Dieu qui est très grand a délaissé tout le monde, a délaissé toutes ses occupations dans ce monde pour penser à moi, pour mettre son focus sur moi, puisqu'il a créé son monde pour moi. Troisième point, Dieu est présent ici. Il observe si je le sers comme il se doit. Donc ça, l'Admor HaZaken a dit, alors ça dépend, il y a certaines personnes chez qui ça prend quelques secondes pour réfléchir à ça, et d'autres personnes qui leur faut plus de temps pour réfléchir pour ces trois points-là. Mais l'Admor HaZaken nous a dit, ça c'est une crainte basique, d'ailleurs c'est la crainte qui marchait les enfants, chez les adultes, elle marchait tout le monde, d'accord ? Aux enfants on fait comme ça, on leur dit comment Dieu est très grand, comment nous on est tout petit, et comment Dieu il regarde tout ce que tu fais. Depuis qu'on est enfant, on nous a toujours dit comme ça.
Voilà. Rapidement.
Très rapidement, parce que s'imaginer que Dieu est grand, c'est facile. S'imaginer qu'on est petit, c'est relativement facile. Et donc, puisque Dieu est grand et moi je suis petit, s'imaginer que Dieu est là et qu'il regarde ce que je fais, c'est relativement facile. Dès qu'on réfléchit à ces trois points-là, automatiquement on arrive à la crainte basique et générale, qui se dit, je ne peux pas me révolter contre Dieu, puisqu'il est là avec sa caméra, d'accord, Bill Broder, il est là en train de me regarder, je peux pas... Il est là, je peux pas m'amuser à faire le malin, je peux pas me révolter contre lui. Ensuite, on a expliqué qu'il y avait la crainte individuelle. C'est quoi la crainte individuelle ? Bon, ça, on n'a pas trop développé, puisque c'est surtout Alpi Kabbalah. On a dit qu'à chaque mitzvah, son enjeu. Exemple selon la Kabbalah, Tefilin, d'accord ? Le concept de Tefilin, à quoi on pense quand on met les Tefilin ? Soumettre sa tête et son cœur à Dieu. Quand on met le Talit, on pense à quoi ? À s'envelopper de la royauté de Dieu. Donc ça, l'Admor HaZaken n'a pas trop développé, puisque ça, c'est déjà, c'est chaque mitzvah qui a une kavana particulière.
C'est quoi,
d'accord ?
La crainte dans le...
Question après, s'il te plaît. D'accord ? Après, avec plaisir, mais les questions après. Donc, la crainte individuelle, ça veut dire que chaque mitzvah a son enjeu, et dans chaque mitzvah, on peut retrouver, d'accord, comment cette mitzvah nous aide à parvenir à un niveau de crainte dans un détail particulier par rapport à Kadosh Baruch. Donc on a donné l'exemple des téfilines, on a donné l'exemple du talit, il y a des tas d'exemples comme ça, mais on n'a pas développé puisque ça c'est un exemple individuel dans chaque mitzvah. Nous ce qu'on a essayé de retenir, c'est la crainte basique et générale, c'est-à-dire de ne pas se révolter contre Kadosh Baruch. Ensuite on a posé la question, on a dit si ça ne marche pas, maintenant quelqu'un il a essayé ces trois points-là, il a essayé, on l'a expliqué, il a réfléchi comment Dieu est grand et illimité, comment Dieu délaisse toutes ses créatures pour mettre son focus sur moi, et comment Dieu est présent ici, et donc je ne veux pas me révolter, mais dans les faits ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas. Il va pas se révolter dans les faits contre Dieu. Ce sera un bon Benoni. Mais, dans les faits, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de sentiment de crainte. Il sent pas qu'il craint un Kadosh Baruch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, on a expliqué deux points. Premier point qu'on a expliqué, c'est que servir Dieu et le craindre sont deux mitzvahs distinctes. Il y a une mitzvah de servir Dieu, Avodat Hashem. Il y a une mitzvah de craindre un Kadosh Baruch. C'est deux mitzvahs distinctes. Donc, il a expliqué que essayer de le craindre, c'est déjà le craindre. Comme un esclave. C'est-à-dire, le fait même d'essayer, j'ai déjà accompli la mitzvah de servir Hachem. Ça, je le crains pas, mais j'ai déjà accompli la mitzvah de servir Hachem. Et là, on a expliqué, on avait eu deux cours dans lesquels on avait expliqué la différence entre le fils et l'esclave, le ben et le eved. On avait dit que le fils, il aime fortement son père, il comprend son père, c'est-à-dire, il comprend ce que son père attend de lui, mais peut ne pas obtempérer. C'est-à-dire, on va lui dire de faire quelque chose, il va pas écouter, il va se permettre certaines choses. l'esclave d'un autre côté, n'aime pas forcément son maître, peut-être qu'il n'aime pas son maître, d'accord, ne le comprend pas toujours, mais il obéit. L'esclave, il obéit toujours à son maître. D'accord. Et nous, ce qu'on nous dit ici, c'est que, même si ça ne marche pas, même si on n'arrive pas à craindre Akadosh Baruch Hu, le fait même d'essayer, de s'efforcer, de continuer comme si de rien n'était, de continuer et d'essayer de le craindre, on a déjà accompli la mitzvah de servir Akadosh Baruch Hu, qui dit servir, ça veut dire le servir comme un esclave. Parce qu'un esclave, il obéit, même s'il ne comprend pas. Ça, c'est un premier point qu'a expliqué Edmond Razaken. Deuxième point, très fort qu'a expliqué Edmond Razaken, c'est que essayer de le craindre et d'être gêné de lui, donc d'Akadosh Baruch Hu, est déjà une forme de crainte. Comment ? Rabbi Yochanan souhaita à ses élèves, soyez gênés de Dieu autant que des hommes. Ça veut dire quoi ? Il a expliqué que, même si on n'arrive pas à développer une crainte réelle d'Akadosh Baruch Hu, de sentir comment Dieu est spirituel, est très très fort, vraiment de sentir une crainte spirituelle, il dit que le fait même de développer une crainte d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire de développer pas une crainte, mais une gêne. Ça c'est le nouveau concept, une gêne. D'accord? Par exemple, je suis gêné de, il y a beaucoup de monde, donc je vais être gêné de faire certaines choses. J'ai pas peur. Pas une peur. C'est une gêne. Je suis gêné. Ça ne se fait pas. On dit que le fait d'être gêné d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est une nouveauté de Edmond Razaken. Donc d'être gêné, c'est-à-dire, j'ai pas peur de Dieu, mais je me dis bon, il y a les gens qui me regardent, il y a Dieu qui est là, ça se fait pas, je suis religieux. D'accord? C'est une gêne. Edmond Razaken a dit que, halakhiquement parlant, c'est déjà considéré comme une crainte. C'est une crainte au top niveau, mais c'est déjà une crainte. D'accord ? C'est déjà ça. Ça veut dire, en d'autres termes, ne pas fauter parce que je suis religieux et ça ne se fait pas, d'accord ? C'est déjà une forme de crainte. Donc, pour répondre à la question, si ça ne marche pas, premièrement, on a répondu que de toutes les façons, tu sers Dieu, donc c'est déjà une mitzvah. Deuxièmement, on a répondu que même si on craint Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas une vraie crainte, c'est une gêne parce que je suis religieux, ça se fait pas, et que bon... Tu te demandes pourquoi tu fais Shabbat. Tu dis bon, parce que c'est comme ça, je suis religieux. Est-ce que tu veux dire parce que chaque fois tu penses à la mitzvah et à Dieu? Non. Edmond Razaken nous dit, c'est quand même, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a appris que c'est quand même considéré comme une ira tachin, comme une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on passe à la colonne de droite. D'accord? On a parlé du sens des priorités. Alors ça, écoutez bien ce qu'on a expliqué. Sens des priorités, de quoi on a parlé? On a parlé de la crainte collective. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, c'était une crainte perso, c'était une crainte un peu égoïste. Ça veut dire comment je m'occupe de moi, c'est entre Dieu et moi. Là, maintenant, on parle d'une crainte collective. On avait eu plusieurs cours sur ça. Apprendre à travailler sans but personnel. Le concept du Messirut Nefesh. Donc, on avait parlé du Lechem Yehoud. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le Lechem Yehoud? On avait expliqué que par l'impact de nos actes, on concrétise le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? C'est que Kutchabrihu s'unira avec sa Shrina. Donc, c'est du charabia en d'autres termes. C'est quoi? Le circuit électrique, entre, d'accord, électrique, trois petits points, sera créé entre Dieu et ses créatures. Vous savez, c'est comme dans l'électricité. Dans l'électricité, d'accord, quand j'appuie sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? L'électricité existe déjà, le néon est déjà là, tout est là. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur l'interrupteur? Je vais créer un circuit. Et dès que je vais créer le circuit, ben là, l'électricité va servir à quelque chose. De la même manière, comme on a expliqué, de la même manière, d'accord, nous, apparemment, quand on fait une mitzvah, même si une mitzvah nous a l'air insignifiante, parce que bon, qu'est-ce que j'ai fait déjà, j'ai mis les tefilines, on ferme un circuit. Tu dis oui, mais je vois pas que je ferme le circuit. Voilà. On dit en dessous, oui, mais j'aimerais voir le résultat de mon investissement. Je ne vois pas le résultat de mon investissement. Ça, c'est le concept de la crainte collective. Ça veut dire faire les choses, même si on ne comprend pas. D'accord? Donc, je suis en dessous, oui, mais j'aimerais voir le résultat de mon investissement. On a trois points. Premier point, il faut quand même s'habituer à réfléchir de la sorte. Chaque juif veut faire plaisir à Dieu au fond de lui, même s'il ne le verra pas comment. Je vois pas comment je fais plaisir à Dieu. Donc ça, on avait passé plusieurs cours dessus pour expliquer le concept du Naase Venishma. Je dis que même si tu comprends pas, c'est peut-être qu'on comprendra jamais comment on a fait plaisir à Dieu. On comprendra jamais comment en mettant des tefilines on a fait plaisir à Dieu. Jamais on comprendra. C'est pas grave. Mourazaka nous dit qu'il faut apprendre à faire les choses sans comprendre et sans vouloir comprendre. Ça, c'est premièrement. Deuxième point très très fort qu'a expliqué Mourazaka, on a passé deux cours dessus. On a dit que agir sans comprendre, d'accord, c'est un Messirut Nefesh quotidien. Ça veut dire que le Messirut Nefesh, il n'y a pas besoin d'aller chercher des cas extrêmes pour le Messirut Nefesh. Le fait que tous les jours on fait Torah et Mitzvot, même si en vérité on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait, on ne voit pas le but, c'est un Messirut Nefesh. Comment il a expliqué? Rendre le spirituel, le principal de notre vie, sans qu'il soit tangible, je ne peux pas dire que je sens le spirituel, que je vois où je vais, est un réel Messirut Nefesh. Tel est le sens du mot Déani et de chaque bénédiction où on dit Baruch Ata, on met notre vie entre les mains de Dieu, même si on ne le voit pas. Je ne vois pas Dieu, je ne sais pas qui il est, je ne l'ai jamais vu. Donc ça, c'est un deuxième point qu'a dit Edmond Razaken. donc toujours dans la crainte collective, ça veut dire apprendre à travailler sans but personnel, qu'il faut savoir que moins on comprend, et mieux c'est. Moins on comprend, et mieux on a un niveau de Messirut Nefesh, et que ça veut dire que quand aujourd'hui on fait une mitzvah et qu'on ne comprend pas trop les enjeux de la mitzvah, il faut savoir que selon la Torah, c'est un réel Messirut Nefesh. Pas besoin d'aller chercher des situations extrêmes pour que ce soit un Messirut Nefesh. Troisième point, nous dit l'Admor HaZaken, il nous a quand même consolé, il a dit que le résultat sera visible sur le plan individuel. C'est-à-dire que même si je verrai pas, même si au bout du compte, peut-être que même quand ma chère viendra, je ne verrai pas comment, par mes téphilines, j'ai accompli le plan général, d'ailleurs ça veut dire comment j'ai accompli le plan de Dieu, mais sur le plan de toute l'humanité, mais au moins j'aurai le mérite de voir comment sur le plan individuel ça servait à quelque chose. Mais je ne verrai pas forcément, et certainement que je ne verrai pas comment sur le plan général, sur le plan global, j'ai avancé, j'ai permis à Kadosh Baruch Hu d'accomplir son plan. Je ne verrai pas. Et ça, on a expliqué, on a passé deux cours dessus dans lesquels on a expliqué qu'il faut apprendre à travailler même si on n'a pas de but. C'est comme ça. D'accord. Et ça, c'est un Messirut Nefesh. Il faut petit à petit, on avait dit que même si au début, quand on fait Teshuvah, on nous attire, d'accord, on nous dit, voilà, tu vas faire Teshuvah, c'est très beau, la famille religieuse, etc. Mais après, quand on est dans le coup, on comprend qu'en vérité, tout ça, c'était des appâts. Mais qu'en vérité, la vraie raison pour laquelle on fait Torah Mitzvah, c'est pas pour ça. C'est parce que Dieu a demandé point à la ligne. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles on était attiré, après on voit que bon, il faut les tarer, nous dit bon, c'est pas si rose que tu croyais, quand dès qu'on est dans le système, bon, là on comprend que la vraie raison pour laquelle on fait les Torah Midot, c'est parce que Dieu a demandé point à la vie, Messirut Nefesh. D'accord. Ensuite, on avait expliqué des moments propices pour y méditer, d'accord. Donc les moments propices pour méditer à ce qu'on a dit, d'accord. Donc ça veut dire à la crainte perso, à la crainte collective. Donc on a dit, premièrement, un moment propice, c'est avant de démarrer les brachot du matin, puisque dans les brachot du matin, on remercie Dieu de nous avoir créés, et l'on se remet entre ses mains. Donc avant de commencer les brachot dans lesquels on se remet entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moment propice de réfléchir qu'en fait, on est un pion dans la main d'Akadosh Baruch Hu, et que finalement, on travaille sans connaissance savoir où on va, et que c'est comme ça. Deuxième moment, c'est avant de démarrer la tefila. Rappelle M. David ce qu'on avait dit avec le rabbi de Kotsk. Le plus dur est de positionner l'arc. Le tir en soi est très rapide. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà tiré à l'arc, mais quand, le plus dur, c'est de le positionner. Une fois qu'il est positionné, après, pack, tu l'as, c'est une fraction de seconde. D'accord? D'accord? Il prend du temps. Il met un temps fou à viser, mais une fois qu'il a visé, après c'est fini, ça part. Tout est dans la préparation. Bien sûr. Tout est dans la préparation. De la même manière, nous aussi, avant de démarrer la tefila, une fois que la tefila est lancée, c'est fini. Avant de démarrer la tefila, c'est un moment propice aussi pour réfléchir à ça. Réfléchir qu'en fait, on a un pion dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, on comprend pas toujours ce qu'on fait, c'est un Messirut Nefesh, et qu'il faut apprendre à faire les mitzvot même si on comprend pas ce qu'on fait. Donc un moment propice, c'est également avant de démarrer cette tefila le matin, si on a le temps. Troisième point, troisième moment propice, c'est avant de démarrer sa pause étude pendant la journée. Vous vous rappelez? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, sa pause, oui. Sa pause étude pendant la journée, avant de démarrer sa pause étude pendant la journée, vous savez que pendant la journée, on va s'arrêter dans son travail, pour écouter un petit cours, pour écouter, d'accord? Pause étude pendant la journée. Pareil, on se remet dans le contexte pour dire le sens des priorités. Que même si on vit dans un monde matériel, mais où est le sens des priorités? Qu'est-ce qui a toujours la priorité? C'est le spirituel. Ah, je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas. C'est pas grave. C'est ça le sens des priorités. La crainte avant tout, le sens des priorités, c'est-à-dire comprendre que le spirituel passe avant tout, même si tu ne comprends pas. Ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 41. Ensuite, on se passe à la page suivante. On a eu le chapitre 42 et 43. On a eu beaucoup d'éléments dans les chapitres 42 et 43. Alors, le titre, c'est 40, donc 42-43. Craindre Dieu, deux points, c'est accessible, passe-partout et accoutumant. Alors, écoutez bien. Passe-partout. On va expliquer comment c'est un passe-partout. Alors, on passe tout de suite en dessous. Comment craindre Akadosh Baruch Hu? Tout est dans l'intériorisation d'Ad. Donc, on a ramené une Gemara. On a dit que Moshe nous dit que Dieu te demande uniquement de l'aimer. La Gemara pose la question, elle dit, craindre Dieu est si simple? La Gemara dit, oui, pour Moshe. Alors on a posé la question, on a dit, ok, mais nous ne sommes pas Moshe. Quelle était la réponse? C'est qu'il faut éveiller en nous le niveau de Moshe. Alors c'est quoi éveiller en nous le niveau de Moshe? De quoi on parle? Tout d'abord, on a expliqué les sept bergers. Les sept bergers, c'est les sept branches de la menorah. On a expliqué comment, même si c'est des tzadikim qui sont déjà niftar, mais l'influence des tzadikim est intemporelle. C'est-à-dire c'est constant. Un tzadik, d'accord, son influence existait avant qu'il est né et après qu'il est décédé. L'influence tzadik est intemporelle. Il nous aide à nous travailler sur nos midot, puisque les sept tzadikim correspondent aux sept midot. Moshe, dans tout ça, il correspond à quoi? Moshe est égal à Da'at. Rappelez-vous, on avait parlé de ça autour du voyage chez le Rabbi et tout. Alors,
vous connaissez les sept midot?
Moshe, bien sûr. Chochma, Chesed, Gvura, Tiferet, ça correspond à sept attributs. La bonté, la sévérité, la bonté, la rigueur, etc.
On ne l'a pas rappelé, là.
Non, on ne l'a pas rappelé, parce qu'on ne les a pas trop développés. Parce que nous, le but de notre cours, c'est de parler de Moshe Rabbeinu. Moshe est égal à Da'at. Ça veut dire quoi? Moshe en personne. Ainsi que les grands tzadikim de chaque génération, donc entre guillemets les étincelles de Moshe, d'accord, nous donnent les forces pour intérioriser la présence de Dieu en nous, Da'at. Donc qu'est-ce que le Da'at? Intérioriser assidûment un concept à un point qu'il nous concerne de manière tangible. Ça c'est Da'at. Da'at c'est pas la compréhension, c'est pas la réflexion. Da'at c'est intérioriser un sujet à tel point que je le sens de manière tangible. D'accord? Mais assidûment, ça prend du temps. C'est pas facile. D'accord? Assimiler quelque chose. Ça c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous aide à parvenir à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est un passe-partout. Parce que tout est dedans. On peut croire qu'on aime, on peut croire qu'on craint Dieu. Mais si on n'a pas réellement assimilé, conceptualisé, d'accord? On a eu beaucoup de termes, ça ne sert à rien. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le passe-partout. Comment y arriver? Comment j'arrive à ce niveau de date? Alors on a donné l'exemple du prisonnier. On a dit que le prisonnier, pour ne pas oublier le monde extérieur, il devra, petit 1, ne pas faire attention à la manière de penser des autres prisonniers. Alors, si les autres prisonniers, ils ont développé leur petite vie, lui, il ne doit pas faire attention à ça. Deuxièmement, essayer constamment de se souvenir de la vie hors prison. C'est-à-dire, premièrement, ne pas se faire influencer par l'intérieur. Deuxièmement, essayer de se rappeler constamment comment c'était à l'extérieur. De même, pour intérioriser le spirituel et ne pas l'oublier, donc nous, on a un problème, c'est que vraiment, notre échama est descendu en bas, on est un peu en prison ici, et on ne doit pas oublier comment c'était en haut. Donc on devra, petit 1, arrêter de penser à son confort matériel, hein, ça c'est le fameux itkafia, faire teshuva, ne pas penser à la pizza qui va arriver, ça c'est petit 1, d'accord? Et petit 2, c'est essayer assidûment et patiemment de réfléchir à sa grandeur, donc à la grandeur de Dieu. Ça veut dire, donc la deuxième étape, première étape, c'est de ne pas faire attention au matériel qui nous entoure, comme les prisonniers, de ne pas faire attention aux autres prisonniers. Deuxième étape, c'est qu'il faut se fatiguer, deuxième étape du prisonnier, c'était quoi? C'est de se rappeler comment c'était à l'extérieur. De la même manière, nous aussi, deuxième étape, c'est quoi? C'est essayer assidûment et patiemment de réfléchir à la grandeur de Dieu, de réfléchir comment en vérité tout tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on a expliqué que ça, c'est une étape qui peut être fastidieuse, d'accord, qui peut être difficile, qui peut être vraiment fatigante, si... petit A, on a une neshama de bas niveau, ou si petit B, on a commis des avérantes. Ah, il y a déjà là. Le tzadik dans tout ça, le rôle tzadik dans tout ça, il nous aide à éveiller en nous le niveau de Moshe, Da'at, intériorisation pour travailler ces deux étapes. Donc c'est quoi les deux étapes? C'est premièrement arrêter de penser à son confort matériel, et deuxièmement, essayer de réfléchir à sa grandeur. C'est-à-dire essayer d'arrêter de réfléchir à notre confort, d'essayer plutôt de penser à Kadosh Baruch Hu. Alors, entre parenthèses, on a dit comment intérioriser que Dieu nous regarde. Est-ce que Dieu voit-il? Ça c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu y voit? On a expliqué que plus que nous regarder, il nous sent comme l'homme sans son corps, sans même le voir. Merci beaucoup. Il nous connaît en se connaissant. Ça c'est Rambam qui a dit ça. Petite nuance, le corps a un impact sur la Neshama puisqu'elle le sent. Dieu est lié à nous sans aucun impact de notre part. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que si par exemple le corps va recevoir un coup, la Neshama va avoir mal aussi. Pourquoi? Parce que comme la Neshama et le corps sont liés, donc puisque la Neshama sent le corps, donc automatiquement si le corps prend un coup, ben la Neshama elle prend aussi un coup. Chez Akadosh Baruch Hu, Dieu il nous sent, donc il nous, non pas seulement qu'il nous voit, il nous sent, mais sans que si on prend un coup, ça lui fasse un coup à lui aussi. D'accord? Ensuite on a fini, donc trois petits points encore, on a expliqué que intérioriser a un effet durable. Pourquoi? Puisque dès qu'on l'y repense, l'effet est là. C'est-à-dire que ça c'est intéressant, on a expliqué que si on a travaillé longtemps sur un concept, la prochaine fois qu'on y réfléchit, en quelques secondes, on peut se remettre dans le coup. D'accord? Pas besoin de tout recommencer à zéro à chaque fois. Autre point qu'on a expliqué, c'est que la nature peut nous aider à parvenir à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comment? De même que la crainte du roi n'est pas de ses vêtements, mais de sa personne. J'ai pas peur des vêtements du roi. Les vêtements vont m'aider à arriver à la crainte, mais j'ai peur de la personne du roi. De même, nous aussi, en observant la nature qui sont les vêtements de Dieu, et en s'entraînant, puisque Emouna est égal à entraînement, c'est la même étymologie qu'entraînement, en s'entraînant donc à voir qui est derrière ces vêtements, donc c'est Dieu, la crainte viendra plus facilement. Donc on peut s'aider de la nature. Et enfin, on a conclu en disant que maintenir un travail constant et stable, c'est-à-dire qu'il faut savoir que quoi qu'il arrive, le travail d'intériorisation est constant, il y aura des hauts et des bas, il faudra tenir bon. Donc ça c'était le chapitre 42. dans le chapitre 42, on a expliqué que qu'est-ce que c'est la crainte? La crainte, tout est dans l'intériorisation. L'intériorisation, c'est le date. C'est comprendre que le focus n'est pas dans notre vie matérielle, mais dans le focus est dans la vie spirituelle. Comprendre qu'il y a un monde qui suivra, par derrière. D'accord? Comme le prisonnier. Comprendre qu'il y a un monde dehors. Il y a un monde hors prison. Et réfléchir à ça. D'accord? Réfléchir à ça très souvent. Et si on voit qu'on n'y arrive pas, il faut savoir que le tzadik nous aide à tout ça. C'est Moshe Rabbeinu avec son niveau de date qui nous aide à tout ça. Et enfin. D'accord? Donc, dans le côté gauche. Ça, je vais vous dire à l'oral rapidement. Vous aurez le temps de le relire. On a expliqué qu'il y avait deux craintes et deux amours. Il y avait la crainte d'en bas et la crainte d'en haut. La crainte d'en bas, c'est la crainte, ou bien la crainte du policier, ou la honte de salir un monde tellement beau. Donc ça on appelait la crainte d'en bas, c'est la crainte qui nous concerne à tous. Et je conclue parce qu'après... Et la crainte d'en haut, c'est celle des tzadikim, c'est quoi? C'est arriver à se convaincre que notre existence indépendante est entièrement, totalement imaginaire, à l'image d'une histoire dans un film. Ça, on a expliqué, c'est celle des tzadikim. Ça, c'est donc deux niveaux de crainte. Un niveau de crainte qui nous concerne à nous, ça veut dire, bon, où on a peur de la punition... Ou bien on a peur de, on dit ça se fait pas de salir un monde tellement beau. Ou bien on a la crainte des tzadikim qui est que on se dit que ils se sentent tellement annulés à Dieu que même sentir sa personnalité ils ne le sentent pas.
On parle de quel monde là?
Notre monde.
Notre monde. Parce qu'il est pas tellement beau.
D'accord. Alors.
Un peu plus.
Là, on parle du monde que Kadosh Baruch Hu a créé. Donc de l'autre côté, on a deux amours. C'est quoi les deux amours? On a l'amour d'en haut et l'amour d'en bas. C'est quoi l'amour d'en haut? L'amour d'en haut, donc ça c'est un cadeau pour les tzadikim, c'est l'amour désaltéré. Ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas de soif, il est zen. Ça c'est un cadeau pour les tzadikim. Et d'un autre côté, on a l'amour ahavat olam, l'amour mondain, je pense qu'on dit comme ça en français. D'accord? Donc basé sur l'analyse matérielle, ça veut dire quoi? C'est quoi cet amour-là? C'est-à-dire comprendre par l'analyse que comparé à nos plaisirs mondains, le plaisir d'être religieux et attaché à Dieu est incomparablement plus intéressant. Ça, alors il faut passer d'abord par l'étape crainte, là on comprend maintenant. Une fois qu'on est passé par l'étape crainte, où on a compris que le sens des priorités, que qu'est-ce qui est le plus important, c'est le spirituel, alors après, une fois qu'on fait teshuvah, on comprend que, en vérité, tous les plaisirs qu'on a connus, il faut lâcher les plaisirs qu'on a connus, parce qu'on comprend que les plaisirs qu'on a connus, c'est rien par rapport à la possibilité d'avoir la soif et d'aimer à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Avat Hashem. Ça, par exemple, quand on vous dit, c'est vrai que quand je fais Shabbat, à cause de ça, je gagne moins d'argent, mais qu'est-ce que c'est gagner de l'argent par rapport au plaisir d'être religieux? Ça, c'est une forme de Avat Hashem. D'accord? Alors, on a dit que bien que normalement, il faut démarrer par la crainte, il y a des gens qui ont démarré par l'amour et ça a marché. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, comme l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. C'est un cadeau du ciel. Mais normalement, il faut démarrer par la crainte, parce que sinon ça ne marche pas. Maintenant, dernier point, je conclue avec une note un peu humoristique. J'ai essayé d'aimer Dieu de la sorte, mais je suis en plein désillusion. Ça ne marche pas. Ai-je de l'espoir? Réponse, oui, en venant au cours de Tania à la rentrée pour étudier le chapitre 44.
Ah. À la rentrée, ça veut dire que...